Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger. Bonjour, Carl.
Bonjour.
On va commencer avec toi, Carl, parce que, bon, t'es un stratège politique, là. Tu regardes la gestion que Justin Trudeau dit « je fais du dossier SNC-Lavalin » puis t'es pas impressionné.
Non, c'est pas impressionnant. Mais écoute, on a juste à constater les faits. Le premier ministre Trudeau était à Kanata ce matin pour annoncer un investissement de 40 millions dans BlackBerry pour le développement là, d'un véhicule sans conducteur. Mais oui. C'est pas de ça qu'on va parler.
On va parler
de SNC. Ça poursuit Justin Trudeau. Les journalistes ont posé plusieurs questions encore ce matin. Les libéraux ont clairement pas le contrôle du message. J'ai écouté ton entrevue avec François-Philippe Champagne, là. C'était pas convaincant.
Pourtant, il aurait pu me répondre, à partir du moment où il me dit, Carl, c'est normal que moi, comme élu du Québec, je sois préoccupé des emplois et du siège social, et c'est aussi important de préserver le principe de l'indépendance du judiciaire. Et il y a moyen, M. Drainville, de concilier les deux, de défendre à la fois les emplois et le siège social dans le respect de la séparation entre la justice et le politique, etc., etc. Mais semble, ce que je viens de dire là, c'est correct, cela, là? J'ai pas dit de niaiserie.
C'est correct, sauf que c'est pas ce qu'il a fait. Et si on veut respecter l'indépendance, hein, la séparation des pouvoirs... Ouais. Mais que la personne en question agit de son pouvoir indépendant, de sa souveraineté de ministre pour prendre une décision contraire, ben on la tasse. On l'envoie ailleurs. Et là, c'est là où est tout le problème.
Et
ce matin, Justin Trudeau, ben il y avait une nouvelle explication concernant le remaniement de Jody Wilson-Raybould. Écoutons ça.
Très simplement, si Scott Bryson n'avait pas quitté son poste au sein du Conseil des ministres... Jody Wilson-Raybould serait encore ministre de la Justice et procureur général aujourd'hui.
Moi, je suis de la misère. Parce que franchement, honnêtement, là, juste pour que les gens nous suivent, Bryson s'en va. Il faut le remplacer au Conseil du Trésor. Alors là, il décide à la faveur donc de ce remaniement-là de tasser Wilson-Raybould. Il aurait très bien pu... remplacer Bryson au Conseil du Trésor tout en laissant Wilson-Raybould à la justice, moi, ça me convient absolument pas. Voyons donc, Carl, c'est quoi cette affaire-là?
Écoute, David Lametti, quelqu'un de très compétent, il aurait pu très bien aller au Conseil du Trésor, puis on règle le problème. Mais c'est pas ce qu'il a fait.
Ou t'envoies quelqu'un d'autre aux anciens combattants, là, tu sais, si tu veux, mais t'es pas obligé de tasser Wilson-Raybould parce que Bryson s'en va. Voyons donc. Je trouve que c'est une explication qui est vraiment, vraiment faible.
Très faible, et c'est pas la première cette semaine. Hier, c'était le député Anthony Allsfather, là, qui est président du comité de la justice. Il avait sa propre explication. Il disait que Jody Wilson-Raybould devait quitter parce qu'elle ne parlait pas français.
Ben, à ce rythme-là, c'est quoi? C'est au moins la moitié du cabinet de Trudeau qui devrait quitter parce qu'il parle pas français.
Et ça a forcé Justin Trudeau à réagir ce matin. Écoutons ça.
La question du bilinguisme ne faisait pas partie des facteurs pour lesquels on a fait un remaniement ministériel par rapport à l'ancienne procureure générale. Et je suis content que le député en question a retiré et s'est excusé pour ses commentaires.
Ouais, je pense qu'il a reçu un appel du bureau, premier ministre.
Rappeler quand même que nous-mêmes, là, lorsque M. Lametti avait été nommé, on commentait puis on disait que c'était une bonne idée que le ministre de la Justice désormais vienne du Québec parce qu'il allait avoir plusieurs dossiers sensibles entre le fédéral et le Québec, entre autres sur la question du port de signes religieux.
Je vais aller plus loin que ça, Paul. Les gens au PMO, là, les gens au bureau du premier ministre, spinaient cet angle-là. Spinait le fait qu'on avait besoin de quelqu'un de bilingue pour expliquer les changements. C'était une explication qui était ressortie à ce moment-là. Ça n'a pas été inventé, là.
À l'époque, c'était plausible, mais là, on a un petit peu un plus gros morceau de l'histoire, mettons.
Exactement.
OK. Puis évidemment, il y a les Autochtones qui sont pas contents, là. On s'entend ça. Puis il faut se rappeler à quel point c'est quand même un des éléments importants du message de Justin Trudeau depuis qu'il est premier ministre, la réconciliation avec les Autochtones. Il y a des effets, des dommages collatéraux dans la démission de Wilson-Raybould.
important. Plusieurs groupes et plusieurs leaders autochtones qui voient la façon dont Justin Trudeau traite Jody Wilson-Raybould inconcevable, inadmissible.
Il voit ça comme une insulte. Il voit ça comme une insulte aux peuples autochtones, hein? Ben oui.
Absolument. Ben oui, et la soupe est tellement chaude que hier, il y a un porte-parole du bureau du premier ministre qui est allé parler au réseau APTN, donc le réseau de télévision autochtone, pour dire, ah, vous savez, les murmures, les mémérages sur Jody Wilson-Raybould, là, c'est inacceptable. Le premier ministre est totalement en désaccord avec ça. Hein?
OK.
Ça fait une semaine qu'ils font juste faire ça en arrière. Mais là, ils envoient un porte-parole pour parler juste aux réseaux autochtones pour s'attaquer à ces... Tu vois qu'ils essayent de faire du damage control, comme on dit.
Damage control. Voilà.
Et
ça fonctionne pas parce que ça fonctionne. Non, voilà, exactement. OK. Paul, on parle. Écoutez, il y a quand même quelques dossiers à Québec, là. Sais-tu quoi? Je pense que je vais commencer par le retour des expos.
Ben, pourquoi
j'aimerais
pas?
J'aimerais ça que tu me parles de ça.
Parce que t'es fébrile ou?
Ben, moi, j'aimerais ça qu'ils reviennent, mais j'ai bien compris parce que j'en ai parlé une couple de fois aux auditeurs. Puis le message que j'ai reçu des auditeurs, c'est oui, on n'aille pas ça, l'idée que les expos reviennent,
mais
on veut pas de fonds publics là-dedans. Là, ça, c'est très majoritaire comme point de vue. Et je dois t'admettre que quand c'est sorti là, que finalement les promoteurs du projet, M. Bronfman et les autres, avaient choisi le terrain du bassin Peel, j'ai vu les nouvelles en provenance de Québec à l'effet que Québec était prêt à appuyer le projet, puis j'ai été un petit peu surpris.
Moi aussi j'ai été surpris parce que, écoute, quand tu es à l'Assemblée nationale, tu as juste à regarder en bas de la colline, tu vois le centre Vidéotron qui a été payé par des fonds publics, puis moi j'ai pas encore vu de match des Nordiques là-bas. Il y a les matchs des Remparts, mais pas des Nordiques. Donc, on voit que c'est pas parce que tu construis un... ouais. On voit que c'est pas parce que tu construis un amphithéâtre que l'équipe va venir. Ça, c'est surtout dans les films que ça se passe. Mais donc, le terrain qui est convoité à Montréal, Bassin-Peel, c'est un terrain qui appartient au fédéral. Ils voudraient que les promoteurs voudraient que ça leur soit cédé. Donc, ça serait un avantage de 50 millions de dollars. Hein. C'est quand même
ça
pas n'importe quoi.
Le cadeau du fédéral, parce que ça appartient au fédéral.
Exact, un cadeau du fédéral et donc des contribuables, 50 millions de dollars. Et le gouvernement Legault, quand on lui a demandé est-ce que vous voulez mettre de l'argent public, ils ont dit pas une subvention, par contre, peut-être un investissement ou une quelconque participation. On n'a pas été dans le détail, mais sur le principe, on disait on va mettre de l'argent à condition que ce soit rentable. Et moi, quand j'entends ça, je me dis il faut vraiment faire attention comment on calcule la rentabilité. Parce que tu connais la gimmick, à chaque fois qu'il y a un projet pour faire venir une équipe sportive, les études de retombées économiques, c'est la multiplication des pains. On est toujours en train de jouer avec les paramètres. Fait que là, il va falloir être très, très, très attentif, voir ces études-là. Elles vont être faites en fonction de quel taux de change, quel taux d'occupation du stade et surtout, est-ce qu'on présume que l'argent qui va être dépensé au stade puis autour du stade, c'est de l'argent qui n'aurait pas été dépensé autrement? Parce que souvent, on prétend que c'est de la création de richesses alors que c'est juste du déplacement. T'sais, si moi, j'habite à Brossard, à Laval ou à Rosemont, puis je m'en vais au stade dépenser 100 $ pour ma soirée, bien 100 $-là, s'il n'y avait pas les expos, je l'aurais dépensé ailleurs. Donc, c'est du déplacement d'argent, c'est pas de la création. La nuance est super importante.
Ben oui, c'est important de le mentionner parce que...
Es-tu un amateur de baseball, toi, Cam?
Ben moi, je suis un amateur de baseball. Écoute, j'étais là à plusieurs matchs au cours des dernières années des expos. Même le dernier match, j'étais là. Bon. Mais pas la raison. Le budget loisir d'une famille, disons que c'est 100 $ par semaine, là, je dis qu'un chiffre, il n'augmentera pas parce que les expos reviennent. Alors la question, c'est est-ce qu'il y aura de l'argent de l'extérieur de la province, donc des touristes, du baseball, est-ce que ça pourra compenser ce genre d'investissement-là? Moi, j'ai des gros doutes.
OK. Parlons d'un autre sujet dont on n'a pas beaucoup parlé cette semaine, la fameuse consultation sur le cannabis pour augmenter l'âge légal de 18 à 21 ans. Ben vas-y, résume-nous ça, parce que franchement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'appui pour cette idée-là de la CAQ. C'est ce qu'on a entendu.
Très peu. Puis on n'a pas entendu parler, entre autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont parlé, parce que les consultations, elles ont été très restreintes. Il y a peu de groupes qui ont réussi à parler. Par exemple, l'Association médicale canadienne, elle n'a même pas pu parler. Moi,
Pourquoi
qu'on a voulu que les consultations soient très courtes. En gros, la CAQ dit qu'elle a un mandat de la population. Elle a fait son idée. C'est certain qu'elle y va avec le 21 ans. Mais sans refaire tout le débat, moi, il y a une chose dont je voudrais te parler. C'est l'Institut national de la santé publique a fait une ouverture. Eux, les gens de la santé publique, là, c'est eux les spécialistes là-dedans. C'est eux qui font la recherche scientifique sur les politiques de santé publique. Puis eux, ils disent très, très, très clairement, le 21 ans, c'est une mauvaise idée, il faut 18 ans. Mais ils constatent que la CAQ ne veut pas changer d'idée, donc ils sont constructifs. Ils essayent de proposer une espèce de compromis. Ils ont dit, OK, les gens entre 18 et 21 ans, on pourrait leur permettre d'acheter du cannabis à la SQDC. Par contre, on leur permettrait seulement d'acheter du cannabis avec un taux faible de THC, par exemple en bas de 10 %. Ce qui serait...
Ah, c'est, est-ce que ce serait gérable?
Moi, je crois que ce serait gérable parce qu'en ce moment, les produits qui sont vendus, tu as déjà identifié le taux de THC. Ouais, ouais. Donc, si tu présentes ta carte d'identité, j'imagine que ça peut se contrôler assez facilement. Puis, il faut rappeler que sous la prohibition ou l'interdiction pour les moins de 21 ans, bien, on sait que les jeunes, ils vont quand même fumer, puis ils risquent de fumer n'importe quoi. Puis quand tu achètes ta drogue sur le marché noir, il n'y a aucun moyen d'avoir un contrôle de la qualité. Alors, et il n'y a aucun moyen de savoir quelle quantité de THC il y a.
D'accord. En 15 secondes, réaction du ministre à cette proposition de compromis?
Non.
Non?
Écoute, je ne sais pas s'il a officiellement fermé la porte, mais il n'a pas manifesté d'intérêt. Mais okay. J'ai hésité à te faire la version brève, Bernard.
Oui, je comprends. Mais bref, c'est une consultation où l'on consulte, mais l'idée est déjà faite.
C'est à peu près ça.
Et rappelons que,
c'est une consultation où on jase.
Ouais, et rappelons que le 3/4 du marché là, est toujours illégal hein, pour les gens qui en consomment. 3/4 toujours illégal.
Carl Bélanger, consultant stratège, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci à vous deux. Bonne fin de semaine.
Merci
à toi. Bye-bye.
Au retour, Hydro-Québec.